Les Canuts, troisième partie, chapitre 10. Il y avait plusieurs jours que Louise et Eugène étaient seuls. La mère des Négris était allée à Crémieux, dans l'Isère, auprès de sa sœur malade. Depuis l'interdit, l'atelier de dévidage chômait. Toutes les branches du tissage se ressentaient de la crise. En l'absence de sa mère, Louise donnait son temps aux soins du ménage et mettait le linge en ordre. Eugène, lui, congédié du magasin comme les autres employés, passait son temps à courir la ville. Louise travaillait seule près du petit poêle de l'atelier, lorsque les premiers coups de canon avait retenti vers Bellecour. Effrayée, elle avait ouvert la fenêtre et prêté l'oreille. Au loin, la fusillade crépitait, de minute en minute redoublant de violence, s'étendant peu à peu à tous les quartiers. Et, au-dessous d'elle, dans la rue, des hommes passaient en courant, armés de fusils, de fourches, de haches, de bâtons. C'était l'émeute qui commençait. Alors, elle se mit à invoquer Dieu pour tous ceux qui, follement, combattaient là-bas, en particulier pour Marius, qu'elle devinait être parmi les insurgés. Mais dans sa prière, une autre inquiétude la troublait. Eugène était dehors. Toujours au premier rang des curieux, il pourrait recevoir un mauvais coup dans la bagarre. Que ferait-elle s'il ne rentrait pas? Longtemps, elle resta à la fenêtre, impuissante à rien faire, priant encore et pleurant, les regards fixés sur la ville envahie peu à peu par les ombres de la nuit. Brusquement, la porte s'ouvrit. C'était Eugène. Louise courut à lui et le serra dans ses bras, sans avoir le courage de le gronder. Il vit qu'elle pleurait. « Je t'ai fait du chagrin ? » murmura-t-il. « Oui, j'étais bien inquiète. » Pauvre sœur. Gentiment, il se jeta à son cou, puis il lui raconta ce qu'il savait. Il s'était trouvé aux abords de l'hôtel de Chevrière au commencement de la lutte. Ensuite, il était allé sur la place Bellecour, avait vu les troupes et entendu tirer le canon. C'était drôle. À chaque décharge, les vitres des maisons volaient en éclats. À la nuit, le combat avait cessé. Alors il était revenu par les quais du Rhône, où, 2 heures auparavant, il n'aurait pu passer sans danger. À chaque pas, il avait rencontré des morts et des blessés qu'on emportait sur des brancards. « Et te voilà, vilain polisson !» Heureuse de le retrouver sain et sauf, Louise couvrait son frère de baisers. « Et Marius ? » dit-elle enfin. « Tu ne l'as pas vu ?» Eugène s'empressa de répondre. Il l'avait aperçu place Saint-Jean, au milieu des hommes qui étaient sortis du tribunal, après le coup de feu contre l'agent. Marius était avec Simon. Le petit gonne avait essayé de le rejoindre, mais un remous de la foule l'en avait éloigné, et il l'avait perdu de vue. Cependant, un ouvrier du quartier lui avait dit que Marius, avec ses compagnons, s'était réfugié dans l'allée de Largue, mais qu'un bien petit nombre avait dû échapper à la mitraille. Il était bien possible qu'il eût été blessé et transporté à l'Hôtel-Dieu. « Ah, mon Dieu !» fit Louise très pâle. Se détournant, elle essuya des larmes. Mais surmontant son émotion, elle fit asseoir son frère et s'occupa de le faire souper. « Et toi, Louise ? » dit-il. « Tu ne manges pas ?»« Non, je n'ai pas faim ce soir. » Elle faisait un effort pour ne pas pleurer. Eugène avait bon cœur. Il devina que c'était à cause de Marius que sa sœur était triste. « Louise, dit-il, si nous allions à la recherche de Marius, nous irions voir à l'Hôtel Dieu. À l'heure qu'il est, nous n'avons plus rien à craindre, on ne se bat plus. » Louise prit son frère dans ses bras. « Tiens, tu es gentil, dit-elle. Tu es bon. Oui, allons à sa recherche. Ce pauvre Marius a peut-être besoin de secours. » Aussitôt, elle jeta un fichu de laine sur ses épaules et sortit avec l'enfant. Par le chemin le plus court, ils gagnèrent les quais du Rhône. La ville était calme. Ils croisèrent plusieurs patrouilles qui les laissèrent passer. Il était 10 heures lorsqu'ils arrivèrent à l'Hôtel-Dieu. Aux abords de l'hôpital, c'était un grand tumulte. Sur des brancards, dans des voitures d'ambulance, des soldats apportaient les blessés qu'ils déposaient dans la cour sur de la paille et que des infirmiers montaient ensuite dans les salles. Éclairant ces scènes lugubres, les lueurs rouges de l'incendie brillaient toujours. Après avoir, à coups de hache, fait la part du feu, les sapeurs du génie laissaient brûler. Au milieu de la confusion générale, Louise et son frère purent pénétrer sans qu'on les remarquât. De temps en temps, une sœur en cornette blanche, le long rosaire à la ceinture, traversait la cour encombrée, allant à la pharmacie chercher de la charpie ou des remèdes. Louise s'approcha de l'une d'elles, très jeune, avec de grands yeux couleur pervenche. Elle lui dit qu'elle était à la recherche d'un parent dont elle était sans nouvelles et voudrait voir s'il était parmi les blessés. La jeune sœur, touchée, répondit avec bienveillance. Mais à pareille heure, il était défendu de laisser entrer personne. On ne pouvait enfreindre le règlement. Le lendemain seulement, à 10 heures, après la visite, on les laisserait pénétrer. Cela dit, la religieuse inclina la tête et s'éloigna le long du cloître. Désolés, le frère et la sœur se regardèrent. Que devenir ? Il ne fallait pas songer à remonter à la Croix-Rousse. Il ne leur serait plus possible de redescendre le lendemain. Eugène proposa de se cacher dans la chapelle jusqu'au jour. La nuit serait bien vite passée. Louise hésita, mais c'était le parti le plus sage. Elle finit par consentir. Ils se dirigèrent vers la chapelle. La porte était ouverte. Ils entrèrent. Dans le chœur, une lampe brûlant devant l'autel répandait dans la nef une vague lueur. Tous deux se mirent à genoux et prièrent pour Marius. Puis ils s'installèrent sur des chaises le mieux qu'ils purent et, sous l'ombre des voûtes silencieuses, s'endormirent bientôt. Dès que le petit jour parut, Eugène ouvrit les yeux. Frileusement, il rejoignit autour de ses épaules maigres son petit manteau de tartan et, roidi par le froid, se secoua, puis réveilla sa sœur. Louise eut un frisson de malaise et d'inquiétude. Dehors, on entendait déjà passer des pelotons de soldats, rouler des voitures, traîner des canons lourdement sur les pavés inégaux. « Tu as eu froid, pauvre petit, » dit-elle. « Oh non, jamais je n'ai si bien dormi. » Vers le cœur, une petite porte venait de s'entr'ouvrir. Dans le jour indécis, parurent les silhouettes blanches de deux religieuses qui s'avançaient vers l'autel. Là, elles s'agenouillèrent, puis, se relevant, elles descendirent vers le bas de la chapelle. Sans bruit, elles glissaient entre les rangées de chaises, qu'elles alignaient comme de coutume, sans paraître émues des événements du dehors, ni fatiguées des travaux de la nuit. Louise et son frère s'étaient remis à genoux. Ils ne pouvaient voir le visage des religieuses caché dans l'ombre de leur cornette. Craignant d'être surpris et réprimandés, ils ne bougeaient plus. Les religieuses, continuant leur besogne, avançaient toujours l'une à droite, l'autre à gauche. À la fin, celle qui rangeait les chaises du côté où ils étaient blottis leva la tête, s'arrêta pour les considérer, puis vint à eux rapidement. Ils reconnurent la jeune sœur aux yeux pervenches. « Comment ? » dit-elle à mi-voix. « C'est vous, pauvres enfants. Vous avez passé la nuit là ?» Louise s'excusa. Ils n'avaient su comment faire. Ils habitaient la Croix-Rousse et avaient craint de trouver les rues obstruées ce matin. Il leur serait si pénible de ne pas avoir des nouvelles de Marius. « c'est bon, pauvres enfants, » reprit la sœur. « Mon Dieu, vous ne dérangez personne. Restez là tranquillement. On va dire la messe, priez un peu pour ceux qui souffrent. » Et, avec un sourire très doux, elle les quitta pour remonter vers le chœur. Les cierges s'étaient allumés. Un prêtre montait à l'autel. Le suppliant murmure des paroles sacrées, coupé par les tintements de la clochette, arrivait jusqu'à eux. Les deux enfants se mirent à prier. Dehors, le bruit augmentait de minute en minute. Des troupes en marche battaient le pavé, s'approchant, s'éloignant. De brefs commandements retentissaient. Puis, c'était le roulement prolongé des fourgons et des canons. Pas de voix de femme ou d'enfant. Aucune des rumeurs habituelles de la rue. La ville était livrée aux combattants. Et à travers ces bruits sinistres venant du dehors, les oraisons du prêtre à l'autel montaient lentes et monotones, soulignées par la voix enfantine du clergeon. La messe était finie. Le prêtre regagnait la sacristie. Les cierges s'éteignirent. Maintenant, il faisait grand jour. Bientôt des coups de feu s'entendirent au loin, puis des coups de canon répondirent. Eugène s'était levé brusquement. « Viens, Louise, » dit-il, « nous monterons au dôme. De là-haut, nous verrons tout. » Louise voulait rester là, mais Eugène insista. Il y avait plusieurs heures à attendre avant la visite. Du dôme, il verrait l'aspect de la ville. Peut-être même apercevrait-il Marius. La jeune fille finit par céder. Ils se glissèrent hors de la chapelle et s'engagèrent dans les cloîtres et les longs corridors. Des sœurs, des médecins, des internes passaient rapides et affairés sans remarquer les deux enfants. Ils n'osaient demander leur chemin. Après des recherches infructueuses, ils trouvèrent enfin l'escalier et gagnèrent le sommet du dôme. Quelques personnes étaient là, regardant, appuyées sur la barrière circulaire. Du côté du Rhône, les quais et les ponts, d'ordinaire pleins de mouvement et de vie, étaient maintenant déserts. Du côté opposé, les maisons incendiées de la rue de l'hôpital fumaient encore. On ne voyait plus, à la place des toits effondrés, que de grands trous noirs pleins de décombres, entre les murs calcinés. Au couchant, dans la brume qui rampait sur la ville, la place Bellecour, dépouillée de ses tilleuls, avait l'aspect d'un camp. Des militaires de toutes armes y bivouaquaient pêle-mêle, parmi les canons, les obusiers, les caissons d'artillerie, les voitures d'ambulance. Au long du vaste rectangle, des tranchées avaient été creusées et des baraques élevées à la hâte, çà et là, pour les officiers. Attachés à des piquets, retenus par des entraves, les chevaux des dragons hennissaient. Au pied de la statue de Louis XIV, les soldats avaient allumé des feux et se groupaient autour. Eugène les voyait préparer le café, nettoyer leurs armes, panser les chevaux. Le bruit du combat s'étendait de proche en proche, comme une traînée de poudre. Sur la rive droite du Rhône, on distinguait les manœuvres de l'artillerie volante. Les servants, avec leurs pièces, à une grande distance les uns des autres, formaient de petits groupes. Entre eux, aucun être vivant. Çà et là, sur la rive gauche, de rares insurgés s'avançaient en tirailleurs, un par un, faisaient quelques pas en courant, puis se cachaient derrière un mur ou une palissade, s'aplatissant à terre et harcelant les postes à coups de fusil. Un détachement arrivait, les dispersait, et précipitamment, ils battaient en retraite, laissant derrière eux quelques victimes, pour revenir l'instant d'après. À la tête de chaque pont, des troupes stationnaient, rangées en bataille. « Voyez-vous le général Aymard ?» dit un des hommes appuyé sur la balustrade du dôme. Il indiquait de la main le pont de la Guillotière. Le général venait d'arriver à l'entrée du pont, à cheval, et suivi d'un nombreux état-major. Il allait visiter les positions de la rive opposée. Vers le milieu du pont, contrepassant une civière sur laquelle deux artilleurs emportaient à l'Hôtel-Dieu un de leurs camarades blessés, il salua, chapeau bas.
« Bien, ça !» fit Eugène ému. « Tu as vu, Louise ? C'est un brave homme, ce général !»
Mais elle était soucieuse, inquiète. La main en abat-jour au-dessus des yeux, luttant contre la violence du vent qui secouait ses vêtements et agitait les mèches folles de ses cheveux, elle continuait à promener son regard autour d'elle. Au pâle soleil qui perçait la brume, on voyait, par-dessus les lignes verdoyantes des quais, flotter des drapeaux noirs, des drapeaux rouges, sur les édifices tombés aux mains des insurgés. L'Anticaille, Saint-Polycarpe, Saint-Bonaventure, Saint-Nizier, sur toutes les églises de la ville et des faubourgs. Après la trêve de la nuit, la lutte recommençait furieuse. Comme la veille, les soldats occupaient les grandes lignes, les forts, les places, les ponts et les quais. De nouveau, le tocsin sonnait à toute volée. Le canon grondait, des obus fendaient l'air, semant l'incendie. Louise tourna les yeux vers la Croix-Rousse. Là-haut, des détonations continuelles, d'incessantes fumées, indiquaient les points où l'on se battait. La jeune fille frémit. Le chemin lui était coupé à présent. Elle ne pourrait plus retourner chez elle. Mais elle ne le désirait pas. Son cœur lui enseignait son devoir. Retrouver Marius, le soigner de son mieux s'il était blessé, le détourner de la révolte s'il était encore sain et sauf. Eugène, lui, regardait de tous ses yeux. Il trouvait ce spectacle plus beau qu'une revue. Des premières maisons de la Guillotière, les insurgés faisaient un feu enragé et obligeaient le général et sa suite à rétrograder. On venait d'établir, sur la rive droite, une batterie pour les faire taire. Des obus sillonnaient l'espace, allant éclater avec fracas dans les maisons de la rive gauche qu'ils perçaient à jour et enflammaient. On voyait s'élever des tourbillons de fumée. On voyait des habitants éperdus fuir le long des toits. Des hauteurs de Saint-Just, d'autres flammes montaient, se détachant en rouge sur le ciel. Longtemps, Louise et son frère demeurèrent là, contemplant ces horreurs de la guerre civile. Enfin, 10 heures sonnèrent à l'hôpital. « 10 heures, dit-elle. Viens vite, Eugène. » Elle entraîna son frère. À la hâte, ils redescendirent. Une sœur qu'ils rencontrèrent s'offrit à les conduire. On avait affecté aux blessés 2 vastes salles. Ils étaient confondus là, pêle-mêle. Les 2 enfants parcoururent la première salle, suivant chaque rangée de lits, tremblant de reconnaître Marius dans l'un de ces malheureux qui agonisaient. L'une après l'autre, ils examinaient anxieusement chaque couchette. À travers l'immense salle pleine de gémissements, des médecins passaient, suivis des sœurs et des internes. Leur visite terminée, après les premiers pansements, ils prescrivaient les soins à donner à chaque blessé. Ils avaient amputé des membres, extrait des balles, recousu des têtes fendues. Les manches relevées jusqu'au coude, ils ressemblaient à des bouchers, avec leur grand tablier blanc taché de sang. Des blessés se tordaient de douleur sur leur lit, la jambe emprisonnée dans un appareil ou la tête empaquetée. D'autres, d'une pâleur livide, sous la contrainte qu'ils s'imposaient, souffraient en silence. Les 2 enfants avaient parcouru déjà une partie de la 2e salle quand, à leur passage, un jeune homme se souleva péniblement. « Mademoiselle Louise !» murmura-t-il d'une voix faible. Vivement, la jeune fille se retourna et accourut près du lit.
« Ah ! Pauvre Simon ! » s'écria Eugène.
Le blessé eut un triste sourire et raconta ce qui lui était arrivé. La veille, il avait reçu une balle dans l'épaule. On venait de la lui extraire. Il était abattu par la fièvre et criait la soif. Mais le médecin avait dit que la fracture était simple et que ce serait l'affaire de 3 semaines. Comme il s'étonnait de les voir dans cette salle, Louise avoua qu'elle était à la recherche de Marius. « Il n'est pas ici, » dit Simon. Il s'expliqua. Marius était sain et sauf. Au moment où lui, Simon, était tombé dans la rue de l'hôpital, Marius, avec le reste de ses hommes, avait battu en retraite du côté des Cordeliers, où était le quartier général de l'insurrection. Il y était infailliblement parvenu, puisque lui, Simon, avait vu les officiers de la ligne arrêter leurs hommes au bout de la rue de l'hôpital, ne voulant pas s'engager témérairement à la tombée de la nuit dans les rues tortueuses du centre. Si Louise tenait à rejoindre Marius, continua le blessé, elle le pourrait presque sans danger, en suivant avec prudence non pas les quais balayés par la mitraille, mais les petites rues qui n'étaient pas occupées. D'ailleurs, elle n'avait qu'à se laisser guider par Eugène. Lui connaissait la ville comme sa poche et saurait lui indiquer les passages les plus sûrs. « Merci, » dit Louise. « Merci, pauvre Simon. Guérissez-vous vite. À bientôt, n'est-ce pas ?» Elle lui tendit la main, qu'il serra avec effusion dans les siennes, brûlantes de fièvre. Comme une sœur passait, portant un bidon de tisane, « À boire » supplia-t-il. « À boire, pour l'amour de Dieu !» Déjà Louise et son frère s'éloignaient. Ils traversèrent la cour et sortirent rue de l'hôpital. Devant l'Hôtel-Dieu, plusieurs corbillards stationnaient, pleins de blessés, morts dans la nuit. La rue était calme. Les deux enfants longèrent les maisons incendiées que des soldats du génie arrosaient encore, et continuèrent leur chemin par la rue Palais-Grillet, demeurée libre. Depuis les boutiques du rez-de-chaussée jusqu'aux mansardes, les maisons étaient silencieuses et hermétiquement closes. Mais à peu de distance, la fusillade crépitait. Comme ils s'engageaient dans la rue Tupin, des balles perdues parties du pont Lafayette, où des soldats étaient disséminés en tirailleurs, vinrent s'aplatir près d'eux contre les murs. « Vite, par ici, Louise !» cria Eugène, saisissant sa sœur par le bras. En toute hâte, revenant sur leurs pas, ils se jetèrent dans la rue Port-Charlet, dont ils voyaient l'extrémité, aboutissant au quai, fermé par une barricade. Là, du moins, ils seraient à l'abri. À moitié chemin de la barricade, à l'angle de la rue Bonnevaux, un homme en blouse bleue et seins de rouge sortit, le fusil à la main, d'une allée où il se dissimulait, et leur enjoignit de rebrousser chemin. Sans se déconcerter, Eugène répondit. « Nous voulons parler à Marius Jacquemin. »«
Au citoyen Marius Jacquemin, chef de section ?» rectifia l'insurgé. « Alors, adressez-vous au numéro 3. Vous voyez d'ici le drapeau rouge ? Il y a un poste dans cette maison. Vous y trouverez le citoyen Jacquemin. »«
Il est vivant !» s'écria Louise.
« Oui, ma belle, comme vous et moi. Du moins, je l'espère. Il n'y a pas un quart d'heure qu'il est venu me placer là en faction. Et depuis, je ne pense pas qu'il lui soit arrivé malheur. »«
Merci, » répondit-elle.
« Courons, Eugène. » Le cœur lui battait bien fort. Que dirait Marius quand il la verrait venir ainsi ? Maintenant, un peu confuse, elle hésitait à aller jusqu'à lui. Mais, baf, il saurait enfin qu'elle l'aimait de toute son âme. Peut-être alors l'aimerait-il aussi, le lui dirait-il ? Elle serait si heureuse d'entendre cet aveu qu'elle aurait la force de mourir avec lui s'il le fallait. S'arrêtant devant la porte surmontée d'un drapeau rouge, elle avisa un ouvrier qui fumait sa pipe sur le seuil, l'air insouciant. « Je désirerais, » dit-elle résolument, « parlez au citoyen Marius Jacquemin, chef de section. »